OK, alors on va débuter. On est dans le cours sur la prière. On fait la leçon 2, qui est en fait, si je ne me trompe pas, le chapitre 1 dans le livre de Tim Keller. C'est un livre qui est vraiment basé sur le livre intitulé « La prière » de Tim Keller. Moi, je vous encourage à lire le livre. C'est excellent. De faire le cours ensemble, ça nous permet d'échanger, de discuter un peu, d'y aller de nos expériences personnelles. Des fois, de développer aussi. C'est un livre qui se lit bien. Hein? Les chapitres sont assez courts. Traduit en français, en anglais, mais en fait, originalement en anglais. Vous avez les notes de cours sur la petite table là-bas. Je vous invite à les prendre si vous voulez recevoir les mises à jour. En fait, pour nous, si vous voulez bien inscrire votre nom comme étant présent, ça nous aide, ça nous rend service. Mais si vous êtes sur PCO, les notes sont là-bas, je crois. Il n'y a pas de notes? Alors, si quelqu'un peut aller chercher les notes à la réception en haut, s'il vous plaît, je les ai vues, mais personne ne les a descendues. Donc, elles sont là. Donc, sur l'application PCO, ceux qui sont sur Internet, vous pouvez simplement confirmer votre présence. Pour nous, c'est plus simple, mais autrement, vous pouvez juste inscrire votre nom sur le papier. Il n'y a pas de problème. C'est le nom de l'application. Puis, l'autre chose que je voulais vous mentionner, c'est… Oui, c'est ça. Justement, sur l'application, vous trouvez les liens vers les notes de cours, donc les leçons précédentes aussi, et les vidéos des cours précédents. Donc, si vous manquez des cours, si vous êtes à vous voyager, peu importe, mais vous pouvez nous suivre quand même et vous garder à jour pour le cours. On va aller ensemble dans un mot de prière pendant que nos étudiants arrivent. On va commencer. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce pour la prière. Cette communion, Seigneur, qu'on peut vivre avec toi, je te remercie pour tous ceux qui se lèvent de bon matin, un dimanche matin avec une belle petite neige à l'extérieur et qui décide de venir consacrer ce temps à te rencontrer, à apprendre sur toi, sur la prière. Viens, Seigneur, nous faire grandir. C'est un domaine particulier, un peu mystérieux, comme on va le voir ce matin, de la foi chrétienne, de l'expérience chrétienne, Seigneur. Pourtant, ta parole nous enseigne beaucoup sur la prière et surtout nous exhorte, nous commande de prier sans cesse. C'est donc un aspect important de la vie chrétienne, Seigneur. Je te demande de nous faire grandir pendant cette session et de faire de notre assemblée une maison de prière, Seigneur. Que cette Église vienne à ta rencontre jour après jour, dans nos foyers, au travail, à l'école, en Église, Seigneur, lorsqu'on est assemblés, vraiment qu'on soit heureux de venir et même qu'on ait soif de prendre ces moments avec toi quotidiennement, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Comme je mentionnais la semaine dernière, le pasteur Michel Vincent a fait l'introduction. Excellente introduction. Si vous l'avez manqué, là, allez prendre le temps d'écouter ça ou lisez les notes. J'ai beaucoup aimé ce que Michel a fait la semaine dernière. Cette semaine, on va aller un peu dans l'expérience de Tim Keller et la prière. Tim Keller, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est un pasteur. Il est décédé il y a, je crois, un an et demi. C'était un pasteur presbytérien à New York et c'était un homme vraiment intéressant. Un homme extraordinairement brillant, un apologète, quelqu'un qui défendait la foi. L'apologétique, c'est la défense de la foi. Il rejoignait beaucoup les jeunes de niveau universitaire aux États-Unis par sa défense de la foi. Mais c'était aussi un homme qui avait une grande piété. C'est ça qui est le fun avec Tim Keller, c'est que tu as un intellectuel qui vit une piété personnelle. Et c'est un peu de ça qu'il va parler aujourd'hui. Dans son livre, il raconte, là, je ne lirai pas toute la citation, mais dans son livre, il raconte un moment après peut-être 15 ans de ministère pastoral, voire 20 ans, je n'ai pas regardé exactement au niveau biographique, mais il y a un moment où son épouse l'a supplié, selon lui, d'intégrer la prière sur une base régulière dans leur vie de couple. Et depuis ce jour, je l'ai entendu plusieurs fois le raconter, jusqu'à sa mort, ils ont toujours prié ensemble tous les jours. Et Tim Keller était appelé à voyager pour son travail, parce qu'il donnait des conférences à différents endroits dans des églises. Je veux juste lire l'illustration, dans le fond, que son épouse a donnée. Je suis à la page 1 des notes. Imagine que tu sois atteint d'une maladie. C'est son épouse qui a donné cette illustration-là pour le convaincre de dire qu'il faut prier tous les jours ensemble. Imagine que tu sois atteint d'une maladie si grave que ta seule chance de survie serait de prendre un médicament chaque soir avant de dormir. À la moindre omission, c'est la mort en quelques heures. Oublierais-tu de le prendre? Non. Ce serait si important que tu ne ferais jamais preuve de négligence. Eh bien, si nous ne prions pas, on ne s'en sortira pas à cause de tout ce qui nous tombe dessus. Nous devons prier et ne pas l'oublier. » Le contexte est le 11 septembre, New York, pasteur à New York, 11 septembre, il était là à ce moment-là. Et lui-même venait d'apprendre qu'il y avait un cancer de la glande thyroïde. Son épouse luttait avec une maladie de Crohn. Donc, elle dit, écoute, il faut qu'on prie parce qu'on va s'écraser. On ne t'offre pas. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à prier tous les jours. Et moi, dans les notes, je vous partage un peu une expérience personnelle. Moi, lorsque je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, celui qui était pasteur de cette église, c'était Richard Hull. Ceux qui ont connu Richard ou qui connaissaient Richard, il est toujours vivant, c'est un homme de prière. Incroyable. Donc, moi, mon contact avec la foi, très tôt, ça a été la prière parce qu'il parlait constamment de la prière. La prière était très dynamique dans l'église de l'espoir. À l'époque, l'église était investie dans la prière à fond. Les mercredis soirs de prière, il y avait du monde. La jeunesse était là, les leaders étaient là. On était régulièrement une quinzaine de jeunes à prier ensemble. On séparait nos groupes de prière de jeunes le mercredi parce qu'on était trop nombreux, ça vous donne une idée. Et donc, c'était très dynamique. Et Richard a commencé assez tôt à me former comme pasteur. Quelque chose comme un an et demi après ma conversion, j'étais en formation avec lui. Donc là, j'étais proche du pasteur qui était un homme de prière. Je priais constamment. Le matin, là, faire mon culte, c'était comme 1h15. Le soir, je reprenais un 30-45 minutes. Il y avait de la méditation, de la lecture, de la prière dans tout ça. Et puis, il est arrivé une crise dans l'église. Richard a dû quitter. Et j'ai réalisé environ un an après son départ que je n'étais pas un homme de prière. Parce que je priais beaucoup moins. Beaucoup moins. Et donc, je n'avais pas encore intégré ça comme un facteur dans ma vie, dans mon caractère, d'être un homme de prière. Tant que mon tuteur, un tuteur pour un arbre, tant que mon tuteur était là à côté de moi, j'étais un homme de prière. Quand on a enlevé le tuteur, l'arbre s'est mis à crocher. On a un arbre en avant de chez nous, là. J'ai regardé, puis OK, il va falloir y mettre un tuteur drôlement plus solide parce qu'il continue, il continue. Il est en train d'entraîner le tuteur avec lui. Moi, mon tuteur est parti, j'ai découvert un an après que je n'étais pas un homme de prière. Et pourtant, j'ai poussé pour devenir un homme de prière, j'ai poussé pour aller dans le ministère pastoral, puis l'Église a confirmé mon appel, tout ça. Et pendant des années, ceux qui sont avec nous là, depuis des années, vous vous rappellerez, régulièrement, je confessais à l'Église, j'étais toujours pas, selon moi, un homme de prière. Ce n'est pas que je ne priais pas, je priais tous les jours, d'accord? Tous les jours. Je priais pour toutes les situations qui me venaient à l'esprit où il y avait des besoins dans l'Église. Ce n'est pas que je ne priais pas, je priais. Mais un homme qui a soif de prière, un homme qui dit, « Qu'est-ce qui me manque? Je n'ai pas pris mon temps de prière aujourd'hui. » Tout s'en ressent dans ma vie. Et il y a peut-être environ 7-8 ans, là, je ne saurais plus trop, je ne suis pas très bon avec les dates, il y a peut-être 7-8 ans, j'ai eu le privilège d'être coaché par un homme de Dieu qui s'appelle Tim Kerr. Et donc, on a passé un an et demi ensemble, environ. Et Tim est un homme de prière. Et donc, lorsque lui commence du coaching de pasteur, il dit, il nous pose la question, sur quoi est-ce que tu aimerais qu'on travaille? Qu'est-ce que tu aurais à cœur qu'on travaille? J'ai dit, ma vie de prière, Tim, c'est pathétique. J'ai besoin de grandir dans la prière. Et là, Tim m'a dit, OK, on va travailler là-dessus pendant un an et demi, plein d'autres choses, mais je vais être attentif à ça. Mais je vais te faire lire le livre le plus simple que j'ai jamais lu sur la prière. Vous savez peut-être c'est lequel, j'en parle régulièrement. « L'heure qui change le monde ». C'est une plaquette, c'est tout petit. L'heure qui change le monde, ça coûte des peanuts, d'accord? Il dit, c'est le livre le plus simple que j'ai lu sur la prière. Et cet homme de prière-là m'a dit, c'est le livre qui a le plus transformé ma vie de prière. J'ai aimé ça. C'est vraiment une méthode pour prier toutes sortes de prières différentes. Michel l'a évoqué la semaine dernière. Moi, je vous encourage à vous procurer ça si vous dites, écoute, c'est mystérieux, je ne sais pas comment commencer à prier. Tim Keller va vous aider énormément, mais si vous avez besoin d'une méthode, moi je suis un scout dans l'âme, tu sais. Fait que moi j'ai besoin d'une méthode, j'ai besoin d'une drill, c'est ça qui m'aide, j'ai besoin d'avoir comme la répétition, tout ça. Et après, tranquillement, ça s'intègre dans mon être. Et aujourd'hui, je peux dire, j'ai besoin de la prière. C'est de l'oxygène pour moi. Si, vous savez ce que c'est retenir son souffle, là? Je pratique depuis une couple d'années... la respiration comme ceux qui font de la plongée en apnée, où on expire très, très, très lentement. Expirez pendant 1 minute et demie. Le sentiment que vous avez après, là, c'est le sentiment que j'ai lorsque je passe une journée sans prendre un vrai temps de prière. Je suis comme... C'est ça que ça me fait la prière. J'en ai absolument besoin. Dieu m'a transformé par rapport à la prière. Je vous partage ça pour vous dire, Tim Keller était un homme infiniment plus doué que moi, un homme incroyable. Et longtemps dans son ministère, il était comme dans un plateau sur la prière. Puis Dieu l'a amené ailleurs. Personnellement, c'est ça que j'ai vécu aussi. Donc, je vous partage ça pour vous dire que c'est possible de devenir un homme, une femme de prière. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, Yannick, est-ce que tu vas être un jour un homme, une femme, un homme de prière? J'aurais dit, écoute, je languis après ça, mais je ne vois pas le jour. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Il y avait une dimension, et ça va peut-être avec ma première expérience avec Richard. Ceux qui connaissaient Richard, Richard a un petit côté un peu mystique. Fait que, à la fois, j'étais extrêmement attiré vers la prière, puis en même temps, ouf, ça devenait un peu fuzzy dans ma tête, cette affaire-là. Tu sais, comme, je savais qu'il consommait quelque chose de très fort quand il allait dans la prière, mais je n'avais pas accès à ce stock-là. Je m'excuse la comparaison, mais non, moi, c'était assez dry, mon expérience, la prière. C'était comme, c'était un devoir. Je le faisais parce qu'il fallait le faire. Mais je partais rarement, j'avais vécu quelques moments, là, mais je partais rarement de là comme si j'avais eu, tu sais, un boost incroyable. C'est pas ça que j'expérimentais. Aujourd'hui, c'est ce que je vis. Quand je deviens trop stressé puis trop anxieux dans le ministère, je connais le remède. Va t'en prier. Va prier, pas 5 minutes, va prier une demi-heure, une heure, à tout coup, automatiquement, je suis en paix avec le Seigneur, je suis confiant en lui, je me repose en lui. Donc, c'est quoi nos objectifs aujourd'hui à travers cette leçon? Vous les avez au bas de la page 1. Comprendre pourquoi la prière est essentielle dans la vie chrétienne, puis explorer l'importance d'apprendre à prier selon les Écritures. Vous allez voir, c'est une leçon simple, accessible, mais en même temps, j'espère que ça va vous encourager à vous investir à travers la lecture, mais surtout à prier. On lit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, je suis au haut de la page 2, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mettez ça dans ces impératifs-là, là. Soyez toujours joyeux. Je sais qu'il y a du monde qui s'enrage, ce commandement-là. Comment tu fais pour être toujours joyeux? Il y en a qui sont nés joyeux. Moi, je suis né joyeux. Je suis un optimiste naturel, je suis un rêveur. Il y en a d'autres qui n'ont pas ça, c'est pas naturel. Hein? C'est un commandement. Bien, moi, la prière n'était pas naturelle. Autant pour toi, la joie n'est peut-être pas naturelle. Pour moi, la prière, pas du tout. Peut-être que tu vas dire, bien, pour moi, les deux, tu es mal pris. Tu peux grandir. C'est possible de changer. Puis il dit, rendez grâce en toutes choses. Donc, la prière est un aspect essentiel de l'expérience chrétienne. C'est pas négociable. Il en fait un commandement. Ça devrait être constamment là. Si vous concevez la foi chrétienne sans la prière, vous n'avez pas compris la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, ce n'est pas l'œuvre de Christ qui nous sauve d'une damnation. Non, c'est l'œuvre de Christ qui nous fait entrer en communion. L'aspect qui nous sauve de la damnation, qui nous sauve des conséquences, c'est juste le début de la bénédiction. C'est pas la fin de la bénédiction, c'est pas « t'es correct ». Tu sais, un policier t'arrête, puis là, il se prépare à te donner une contravention, commence à jaser avec toi, puis il dit « OK, c'est correct ». Bien, pour certains, c'est ça la vie chrétienne. C'est le policier qui t'a laissé partir. Non. Le policier t'invite à manger chez eux, puis tu deviens son meilleur ami. Là. Comprenez, ce n'est pas le policier qui te donne une passe droite. Ce n'est pas ça le salut, c'est entrer en relation. On devient des amis. On entre en communion. Et donc, la prière est essentielle. Tellement que Paul, sans exagérer à ses yeux, il dit prier constamment. Constamment, constamment, constamment. Soyez en train de prier. J'ai aimé cette citation de Flannery O'Connor. Si vous cherchez des bons romans chrétiens, lisez Flannery O'Connor. Si ceux qui aiment les romans, là, ça date, mais c'est très bien écrit. C'était une des romancières que Keller appréciait beaucoup. Puis elle écrit, elle dit, « N'y a-t-il personne pour m'apprendre à prier? » La prière, c'est un long apprentissage. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, ce serait intéressant de faire un sondage. Là. Michel parlait des contemplatifs. C'est quoi le pourcentage des gens qui arrivent à la foi? Puis c'est comme la prière, c'est plus naturel pour eux que de lire les Écritures. C'est des contemplatifs, ils sont vraiment en prière, ils aiment ça, ils ont du bon temps. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais j'ai une certitude. Quand tu t'en vas chez les baptistes, ça descend. J'ai une certitude. Il y en a moins chez qui c'est naturel, parce que souvent notre contact avec la foi passe par l'information qu'on reçoit. Ça fait partie du paradigme, là, ça fait partie de la recette de l'expérience spirituelle dans un milieu où la parole de Dieu est beaucoup mise de l'avant. J'apprends des choses, je crois dans ces choses-là, puis après je me mets à vivre des choses par rapport à ça. Et sans vouloir parler en mal, au contraire, là, parce que je suis en train de souligner une force de l'autre côté, si tu as connu l'Évangile dans un milieu pentecôte, souvent le paradigme est inversé. Je ressens des choses, je commence à comprendre ce que j'ai vécu, puis après ça, j'ai une intelligence de la foi. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, c'est que ça commence souvent par l'émotion. Il y a un message qui touche. Notre paradigme, à nous, il est inversé. Je suis baptiste, donc je pense que c'est plus ça qui est selon les Écritures, mais il n'y a pas juste des qualités à ça. Souvent, c'est très rationnel, notre patente. On arrive là, puis là, on a des informations, puis on a des informations, puis là, même un des pièges qu'on a, c'est de dire, waouh, ces informations-là sont tellement belles, tu sais. Comme on tripe sur les concepts. On se met à étudier le salut pour, waouh, tu sais, j'ai saisi enfin des aspects du salut, puis je suis capable de les expliquer, puis ça devient un trip intellectuel. Il y a même un danger profond là-dedans, parce que je ne me rends pas à la contemplation puis à la communion. Et donc, pour beaucoup de gens, dans nos milieux à nous, plus conservateurs, plus près des Écritures, apprendre à prier, c'est un long processus. Il y a bien sûr le début où tu t'apprends comme les prières qu'il faut faire, prier avant les repas, commencer ta journée, louer Dieu, confesser, rendre grâce. Mais ça, ce n'est pas encore apprendre à prier, c'est ABC, là, c'est... Je connais, tu sais, OK, mets la clé dans le contact, tourne le moteur démarre. Mais tu sais, conduire, tu sais quand tu conduis, quand tu as juste à ne pas faire trop de choses en même temps, puis tout vient par réflexe. Là tu sais conduire. Il n'y a plus aucun effort, il n'y a rien qui réfléchit. Tu as juste à être là, à être disponible, puis tout se passe bien au volant. Tu vois ce qui se passe autour, tout ça. C'est absolument intégré. Mais là, c'est ça la prière. Et ça, ce processus-là, ça peut être terriblement long. Dans Luc 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Donc, il voyait prier. Il voyait que Jésus vivait des choses avec son Père qui étaient incroyables. Et il voyait probablement que Jésus vivait quelque chose avec son Père qu'il n'était pas habitué de voir. Donc, les gens religieux autour d'eux semblaient vivre, expérimenter une autre sorte de prière. Puis en voyant Jésus, il disait, « OK, lui connaît quelque chose sur la prière que nous, on ne connaît pas. » Il dit, « Enseigne-nous à prier. » Et donc, le point, c'est qu'on a besoin d'être enseigné à prier. Puis j'ai une question pour vous, là, on a un micro, là, mais j'aimerais ça juste, avant qu'on aille plus loin, savoir qui vous a appris à prier et comment vous avez appris à prier. Juste 3-4 personnes. Qui vous a appris à prier et comment vous avez appris à prier? Et peut-être vous dites, « Écoute, je suis au début. » Oui, mais tu sais, quand tu arrives dans un milieu chrétien, les premières fois, tu écoutes les gens prier pour dire, « Oh, OK, ça a l'air d'une conversation. » Vous avez des amis non-chrétiens qui vous ont dit ça? Moi, j'ai vu des non-chrétiens pleurer parce qu'ils m'entendaient prier. Pas parce que je prie bien, parce que je parlais à mon Père. Tu sais, dans leur tête, c'était « Je vous salue, Marie. » là. Moi, je faisais juste une conversation libre. Qui vous a appris à prier et comment vous avez appris à prier? 2-3 braves avant que je vous pointe du doigt. Qui se mouille? Jonathan vous attend. Nicole, qui t'a appris à prier? Jonathan va t'apporter un micro.
Claude puis Estelle Rodrigue m'ont amené tranquillement là, à savoir comment prier puis comment lire aussi dans la parole. Mais je suis ici aussi pour prendre le cours pour réapprendre à aimer à prier.
Amen. Ouais. Amen. Fait que les premiers chrétiens qui t'ont amené au Seigneur t'ont simplement montré comment prier, simplement. C'est bon? Quelqu'un d'autre? Qui vous a appris à prier? Oh, ici. Sylvie.
Je dirais que c'est la souffrance dans ma vie qui m'a appris à prier. Jésus lui-même.
Amen. Amen. Pour beaucoup de gens, c'est ça, hein? Beaucoup de gens. Qui vous a appris à prier? Oui, derrière. La sœur derrière, s'il te plaît.
Le Saint-Esprit.
Explique-moi un peu, là.
Ben, parce que j'ai prié aussi souvent, et puis Je sens des fois, il y a des choses, j'ai des questions. Et des fois, j'ai pensé aller voir quelqu'un et puis je sens dans mon cœur, je dois prier moi-même. Et puis, je me suis mis à prier dans ma chambre. Et puis, le Saint-Esprit m'a guidé dans mes pas.
OK. Donc, tu sens que l'Esprit te pousse à prier, à parler. OK. J'aime ça. J'aime ça. Je pense que c'est une bonne réponse biblique, en tout cas. Saint-Esprit nous enseigne à prier. Un dernier? Qui vous a appris à prier? Oui. Merci.
Oui,
s'il vous plaît.
Quand je me suis convertie en tant qu'étudiante, il y a plus de 20 ans, voilà. Donc, c'est une sœur aussi qui est étudiante qui m'a appris à prier. Voilà. Et comment? Donc, puisque je faisais partie d'un groupe biblique universitaire, donc on avait des séances de prière ensemble et c'est par là que j'ai appris à prier.
Excellent. Cette semaine, on a un cours pratique sur la prière. Mercredi soir, rendez-vous avec Jésus. Parce qu'on apprend à prier en priant avec les gens. C'est comme ça qu'on apprend à prier. Lorsqu'on l'apprend à d'autres personnes, le Seigneur peut nous l'apprendre à nous-mêmes, la souffrance peut nous l'apprendre, mais on apprend beaucoup à prier en priant avec des gens. On a une classe pratique mercredi soir, si vous êtes intéressé. Professeur est juste là, Michel, et puis ça s'appelle nos rendez-vous mensuels avec Jésus. C'est ça, hein, c'est cette semaine? Yes. Cette semaine, cours pratique, cours théorique, cours pratique. C'est bon? Merci, Jonathan. Mais cherchez dans votre tête qui vous a appris à prier. Et si votre réponse, c'est personne, moi, je viendrai à la classe cette semaine. Moi, je viendrai à la classe mercredi si votre réponse, c'est personne. Ou si vous dites, bien, j'ai besoin d'un nouveau prof. Il y a des gens... Dites-vous une chose, là, ceux qui viennent déjà le mercredi, c'est des gens qui croient dans la prière. Et donc, si vous voulez apprendre à prier, là, allez à la prière des dames, allez à la prière des hommes, puis venez au rendez-vous avec Jésus. Vous allez être avec des gens qui se plaisent à prier. Un paysage confus. Je vais aller un petit peu vite sur ça, mais je pense quand même que c'est pertinent. Dans le milieu évangélique, puis dans le christianisme en général, il y a toutes sortes de visions de la prière. Il y a toutes sortes d'idées. Et on a vu dans les années 70, 80, spécialement les années 70, l'Occident a été beaucoup fasciné par les religions orientales. Extrêmement fasciné par ça. Un des éléments qui reste de ça aujourd'hui, vous allez peut-être entendre parler des fois de pleine conscience ou de méditation de pleine conscience, qui n'est pas une méditation religieuse à proprement dit, mais on fait juste s'arrêter, on se détend, on fait juste sentir notre respiration pour simplement s'apaiser. En soi, ce n'est pas un problème. Mais c'est simplement pour dire qu'on est le christianisme a été influencé de tout temps, des fois par d'autres religions, des fois par des visions très mystiques. Dans le catholicisme, il y a des visions de la prière qui sont extraordinairement mystiques. Chez les catholiques, lorsqu'on parle de mystiques, c'est des gens qui ont des visions. Puis des mystiques contemporains, il y en a. Maria Valtorta, Vasula Riden, tout ça, j'ai lu de leurs écrits. C'est des gens qui, selon elles, parlent avec Jésus à tous les jours, là. Je pense que c'est Maria Valtorta. Jésus lui raconte toute son enfance. Elle a de nouvelles révélations au-delà des Écritures. Tu sais. Et tout ça n'est pas sans affecter notre vision de la prière dans les milieux évangéliques, entre autres parce qu'il y a eu un mouvement de renouveau après Vatican II, avec le pape Jean-Paul II, où il y a eu un retour vers les Écritures. Et là, vous avez eu tout le mouvement charismatique catholique, peut-être vous connaissez. Moi, j'ai été mis en contact avec le mouvement charismatique de manière surprenante. Presque après ma conversion, je faisais JBEC, on allait de porte en porte, et j'arrive à une porte à Bécomo, puis je commence à discuter avec les gens, tout ça, super ouvert, intéressé, venez manger chez nous. J'étais avec un chrétien très expérimenté, Michel Caron, puis après Michel, il me dit, Yannick, tu vas être mêlé, mais ça va être intéressant comme expérience, c'est des catholiques charismatiques. Il dit, sois pas surpris, tu vas avoir l'impression que tu es chez vous. Puis en même temps, il croit plein de choses qui sont en contradiction fondamentale avec ce qu'on croit. Prière à Marie, le culte des saints, tout ça. Bon, effectivement, on s'en va là-bas. Puis après le repas, le papa fait venir les enfants puis dit, voulez-vous, on va chanter une chanson. Je me souviens plus c'est laquelle. Ils ont chanté une chanson que je chantais à l'école du dimanche. C'était une chanson protestante qu'ils avaient prise puis qu'ils avaient intégrée. Et tout ça pour dire que là, le milieu charismatique évangélique, le milieu charismatique catholique se sont beaucoup côtoyés. Puis il y a toutes sortes de visions qu'on a de la prière. Puis en même temps, c'est un petit peu inévitable parce qu'il y a un aspect mystérieux à la prière. Donc, quand tu restes dans un milieu qui a une vision très, très, très carrée de la prière, c'est comme une recette, bien, tu ne te rends pas vraiment à la prière biblique, mais c'est facile de rentrer dans une autre zone où ça devient un peu du grand n'importe quoi. Puis tout se réclame du Saint-Esprit, tout se réclame d'une... Ça vient de Dieu, c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu m'a dit. Et donc, c'est vrai qu'il y a une confusion, c'est un paysage confus. Je trouvais que c'est bien dit. La prière, c'est un paysage confus, parce que si tu restes très, très, très carré puis rationnel avec la prière, bien, il manque quelque chose. Et c'est la prochaine section, je trouve, qui est pertinente, là. Mais je veux juste vous citer le verset Éphésiens 6, 18. Si j'ai un expert en exégèse et en théologie qui peut m'expliquer ce verset-là, ça me rendrait énormément service. Éphésiens 6, 18. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça veut dire quoi, par l'Esprit? Si ce n'est pas par l'Esprit, je présume que c'est par la chair. Donc, on peut comprendre, la chair, c'est notre nature déchue, c'est ce qu'on était avant de connaître Dieu. On ne veut pas prier par la chair, ça serait comme pas top, tu sais. Faites en tout temps par la chair toutes sortes de prières. Non, faites en tout temps par l'Esprit. Oui, mais encore, c'est quoi par l'Esprit? Comment je fais pour savoir que je prie par l'Esprit? Des fois, je le sais. Des fois, il y a des moments où tu dis, « Wow, cette prière-là, comme la sœur disait, ça vient de Dieu. Là. J'ai juste eu un énorme fardeau de prier pour une situation, pour quelqu'un. » Des fois, même, on vit des moments où on prie pour quelqu'un, puis quelques temps plus tard, on apprend qu'elle vit quelque chose, puis tu dis, « Regarde, le Seigneur avait mis sur mon cœur de prier pour toi. » On vit des choses comme ça. OK, là, je dis, « Wow, celle-là, c'était par l'Esprit. » Tu sais. Oui, mais... Toutes les autres prières banales sont faites par la chair, par l'esprit. Ça veut dire quoi? Parce que c'est un commandement, c'est une directive. Faites par l'esprit. Et ce que je veux souligner avec ça, c'est exactement dans le même sens que Keller, c'est qu'il y a quelque chose de mystérieux. Il y a une dimension qui est mystérieuse. Des fois, je sais que j'avance par l'esprit, puis d'autres fois, mon cœur est au meilleur de sa disposition, mais vraiment, est-ce que c'est par l'esprit? Je ne sais pas. J'ai pas une conviction. Ce matin, j'écrivais à Eric. J'aime ça écrire aux gars qui prêchent le dimanche matin de notre gang autour de nous, tout ça. Puis j'écrivais à Eric, puis j'ai dit, Dieu est avec toi. Puis parfois, on sait et on sent qu'on est poussé par l'Esprit. Puis d'autres fois, on n'a aucune idée. Mais Dieu est encore là, il est encore en train d'agir. Tu sais. C'est mystérieux. Il y a quelque chose de mystérieux dans ça. Et Keller appelait ça un mysticisme intelligent. Il dit, on est appelé, hein, mysticisme, ça vient du mot mystère, on est appelé à embrasser le fait que la prière, la communion avec Dieu, a une dimension mystérieuse, mais on veut le faire de manière intelligente. On ne veut pas aller n'importe où, puis attribuer au Saint-Esprit n'importe quoi, puis je veux dire, vous avez déjà eu quelqu'un qui est venu vers vous, peut-être, moi, ça m'arrive, là, des fois j'ai des gens qui viennent me voir avec une vision, puis je dis, merci mon frère, merci ma soeur, je mets ça dans la prière, ça va. Mais des fois, tu sais, les gens viennent te voir, puis Dieu m'a dit, puis tu l'écoutes parler, puis tu dis, je pense pas que c'est Dieu qui t'a dit ça. Hein? Parce que j'ai 6 versets que je peux te citer qui disent que ça ne vient pas de Dieu. Fait qu'on est appelé à embrasser une part de mystère dans cette communion-là, mais qu'elle plaide pour qu'on y aille avec foi, puis en même temps qu'on cherche un mysticisme intelligent. Je trouvais ça vraiment bien formulé comme idée. La prière repose, au bas de la page 2, sur la relation avec Dieu comme Père. Elle n'est pas un rituel, mais une communion véritable. Il est essentiel de reconnaître que la prière comporte une dimension mystérieuse, voire mystique. En effet, prier signifie être en communion avec un être invisible, lui parler et désirer intensément faire l'expérience de sa présence. Faites juste penser à ça 2 secondes. La dernière phrase. Prier signifie entrer en communion, il y a une relation, avec un être invisible déjà, lui parler et désirer intensément faire l'expérience de sa présence. C'est ça qu'on veut, les psaumes sont clairs. Je veux expérimenter la présence de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira vos cœurs et vos pensées, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu sais, il y a une paix. Fait que je veux expérimenter ça. Mais je suis en train de parler avec un être invisible. Sérieux, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Romains 8, 15 et 16, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est quelque chose de mystérieux, mais moi, j'ai vécu ça. Après ma conversion, j'avais une grande paix, une grande assurance que Dieu était mon Père. Et on le vit tous de manière différente. Peut-être que vous ne l'avez pas vécu comme moi. Mais c'est devenu clair pour moi. Moi, quand je prie, je m'adresse parfois à mon Père, parfois à mon Dieu, souvent à mon Seigneur Jésus, parfois au Saint-Esprit. C'est extrêmement diversifié comment je parle à Dieu. Parce que c'est vraiment dynamique. Je sais à qui je m'adresse au sein de la Trinité, pourquoi je me tourne vers lui. Et vraiment, dans mon cœur, il y a cet esprit d'adoption. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Il y a deux étés, j'étais en train de marcher pendant les vacances, puis je priais, hey, le temps file. J'étais en train de marcher dans un rang à Saint-Paul-de-la-Croix, là, chez maman. Puis je priais pour ma famille, je priais pour mes enfants. Puis à un certain moment donné, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, comment ça se fait que pour moi, la certitude de ton existence et la conviction profonde que je suis en relation avec toi, c'est la chose la plus réelle dans ma vie. Pour moi, ça, là, c'est plus réel que la matière autour de moi. C'est comme quelque chose qu'on ne pourrait pas m'enlever. Puis je plaidais auprès du Seigneur pour qu'il donne ça à mes enfants. Non seulement la conviction de son existence, mais la conviction profonde là, que on est mariés ensemble. Toi et moi, là, c'est pas pour la vie, là. C'est pour l'éternité. Ça m'habite, c'est là. Je sais bibliquement c'est quoi la réponse. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à mon esprit. C'est la chose la plus réelle de ma vie. Ce serait plus facile pour moi que tu me dises que je suis une femme que tu me dises que je ne suis pas chrétien. Parce que ça, c'est moi, là. Je suis enfant de Dieu. Mon Père est là, il veille sur moi. Souvent, je l'oublie, souvent, j'ai peur, souvent, je vis dans la crainte. Mais c'est là, ça m'habite. C'est très mystérieux. Mais c'est là, c'est réel. Quelques éléments qui ressortent de ça. L'Esprit de Dieu nous donne l'assurance de l'amour de Dieu en nous permettant de nous approcher de lui comme un père, comme d'un père aimant. Certains d'entre vous, vous luttez peut-être avec ça, c'est peut-être ce qui vous empêche de prier. Vous avez besoin d'expérimenter cette douce paternité de Dieu pour vous. Il y a un bon livre, Une vie en prière. J'ai oublié le nom de l'auteur, c'est traduit en français. Une vie en prière, qui se concentre beaucoup sur cet aspect-là. Notre relation avec notre Père céleste dans la prière. Il offre également un témoignage direct et intérieur qui confirme cette assurance dans notre esprit. Cette expérience spirituelle décrite par l'apôtre Paul est une réalité profonde et mystique dans le sens de mystérieuse, selon plusieurs théologiens. La plupart des commentateurs bibliques s'accordent à dire qu'elle représente une expérience spirituelle ineffable ou indescriptible. Je le vis. C'est quelque chose que j'ai avec mon Père. C'est pas toujours exalté. Je flotte pas nécessairement sur un nuage, mais je sais dans mon âme que j'appartiens à Dieu, que je suis bien avec Dieu. Et je sais que c'est pas n'importe quoi parce que c'est un mysticisme intelligent. Ça repose sur l'œuvre de Christ. Je connais Christ. Je connais son histoire, son œuvre, ce qu'il a fait pour moi. Je le connais à cause de sa parole. Thomas Schreiner souligne qu'il ne faut pas rejeter l'aspect émotionnel de ces expériences, même si elles peuvent sembler subjectives et controversées. Donc moi, quelqu'un vient me voir et me dit, « Pasteur, j'ai fait un rêve, c'est une vision pour toi. » Merci. Dieu te l'a donné. Si ça vient de Dieu, il va me le donner. Fait que je prends ça, j'écoute respectueusement, puis je me sens dans la prière. Des fois, c'est controversé. Des fois, c'est bizarre. Des fois, on a des convictions, des impressions. C'est correct. Ça fait partie de ça. Mais il ne faut pas rejeter toute cette dimension-là émotionnelle, un peu mystérieuse. Ça fait partie de la prière. Si tu veux l'évacuer pour te protéger de déraper ou de, d'aller dans quelque chose de mauvais, tu ne te rendras pas à cet endroit-là de prière. C'est plutôt qu'on y va en disant, « Seigneur, donne-moi du discernement. Aide-moi à approfondir les Écritures, que ta parole me guide. Ta parole est là pour valider mon expérience. » Ou l'invalider. John Owen, théologien anglais, insistait sur l'importance de faire l'expérience de la puissance de l'Évangile dans le cœur, une réalité qui ne peut être vécue que par la prière personnelle ou communautaire. Pour John Owen, tu vis vraiment l'Évangile dans la prière. Ça se comprend bien avec ce qu'on vient de dire. Quand je deviens chrétien, je passe de mon père le diable à mon père Dieu le Créateur. Donc, j'entre dans une communion avec lui, je parle avec lui dans la prière. Ça, c'est l'Évangile. Tu sais, j'étais fils du diable, je suis maintenant enfant de Dieu à cause de Christ. C'est ça l'Évangile? Mais je vais dans la prière, je parle avec Dieu, mon Père, à cause de l'Évangile. Donc, j'expérimente la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans la prière parce que je m'approche de Dieu avec une grande assurance. Puis je dis, « Papa, je sais que tu m'aimes, je sais que je suis poche souvent, je sais que j'ai manqué. » Si ce n'était pas de Jésus, je ne viendrais pas avec cette assurance-là, mais je sais que j'ai une assurance absolue. Je suis en train d'écrire l'Évangile. Là. Comprenez? Je suis en train de parler de ce que Christ a fait pour nous. Et donc, j'ai cette assurance-là. Je suis en train d'expérimenter l'Évangile dans la prière. Quand je raconte l'Évangile, quand j'annonce l'Évangile, quand j'explique à quelqu'un qui peut se sentir en paix avec Dieu, je veux le conduire à expérimenter l'Évangile, mais je suis en train de prêcher. C'est dans la prière que je vais le vivre personnellement. Et en communauté. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que ce que Keller a fait, c'est qu'il est retourné vers d'anciens auteurs qui souvent, et je pense que c'est la différence, là, si vous voulez savoir si un livre sur la prière est très solide, très biblique, regardez dans sa bibliographie les livres qu'il va citer. Parce que, comme j'ai dit, au niveau de nos contemporains, souvent on a été influencé par toutes sortes de trucs un peu qui viennent du Moyen-Orient ou des religions orientales ou d'une espèce de mysticisme qui n'est pas nécessairement fondé dans les Écritures. Mais quand vous allez lire les Puritains, quand vous allez lire du Jonathan Edwards, quand vous reculez un peu plus dans le temps, souvent la théologie, donc ce que les Écritures nous enseignent, et l'expérience sont vraiment mariés ensemble. Fait que Keller a dit, « OK, je vais aller vers ces gars-là. » Ils vivaient des choses avec Dieu qui sont beaucoup plus intenses que ce que moi je vis. Mais leur théologie était très, très, très solide. Et donc, ça l'a amené à retourner dans le passé pour aller lire ces gens-là. John Murray, théologien écossais, nous devons absolument admettre qu'il existe un mysticisme intelligent dans une vie de foi. Une union et une communion vivante avec le Rédempteur, éternel et glorieux. Il communie avec son peuple et son peuple communie avec lui dans un amour volontairement réciproque. Une vie menée avec une foi authentique ne peut être un simple acquiescement glacial. Merci Dieu. Non, il y a quelque chose. Hein? C'est pour ça qu'on chante. Il y a des gens qui viennent dans une église évangélique et disent « Mais pourquoi on chante des chants de louange? » C'est parce qu'on aime Jésus. On ne va pas fêter Jésus en disant « Tiens, un cadeau, puis on ne va pas chanter bonne fête. » Mais non, on est en train de chanter « Bonne fête à Jésus » chaque dimanche à travers la louange. C'est ça qu'on est en train de faire. On y met nos cœurs, on veut y mettre nos émotions. Elle doit avoir la passion et la chaleur de l'amour et de la communion, car la communion avec Dieu est le summum de la vraie religion et sa couronne. John Murray, j'aimais ça. Murray souligne que la communion avec Christ implique une relation d'amour tangible et une expérience de Dieu qui dépasse l'imagination. C'est un des éléments, je vais expliquer ça, l'imagination, je trouve que c'est important dans la prière, d'accord? Et je pense que c'est profondément biblique. Regardez 1 Pierre 1, 8 et 9. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. » L'imagination fait partie de la prière. Dieu est pour moi actuellement invisible. je ferme les yeux pour me concentrer sur Dieu et je commence à parler à Dieu. C'est pas que je l'imagine avec une barbe, tu sais, un Jésus blanc du Moyen-Orient, rouquin même, tu sais, puis tout blanc avec des beaux yeux bleus. Jésus, non, il ressemblait pas à ça. Fait que c'est pas que j'ai un visage de Jésus, mais c'est que je parle avec un être invisible, tu sais. Fait qu'à quelque part, j'ai des images de son amour qui vient, de sa présence, de sa proximité. Et c'est pour ça que dans les Écritures, Dieu nous parle de lui souvent, on va appeler ça des anthropomorphismes. Il va dire, il a penché son oreille vers moi. Tu sais, c'est pas une oreille de 4000 km de long qui se penche sur moi. Tu sais, puis, non, tu reçois les poils d'oreille d'en face. Non, c'est pas ça qui se passe, là. C'est juste une image, d'accord? Mais il est là, il est à côté de moi. Donc, les Écritures me donnent un vocabulaire pour que mon imagination contribue à ça. Et encore une fois, ce n'est pas une imagination comme je vais imaginer quelque chose, puis là, je vais en faire une image, puis là, je vais prier devant une image. Non, par définition, on ne croit pas à ça parce que cette représentation-là est toujours fausse, puis je pourrais m'attacher à la représentation plus qu'à la réalité. Vous savez pourquoi la croix est là, au lieu d'être là? Mais une des raisons, ce n'est pas la seule, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Moi, je ne peux pas prier s'il n'y a pas une croix en avant. » Là, je dis, « Oh, OK, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Là, ça ne marche pas. Là. Moi, je prie partout. Je peux prier dans un lieu où il y a juste du monde qui déteste Dieu. Puis j'ai un super bon temps avec Dieu. Pas besoin d'une croix en avant pour prier. Mais j'aime la croix. J'aime énormément la croix. » Et donc, c'est pas que je vais me faire une image, tu sais, puis je vais commencer. C'est pas ça. C'est que mon imagination fait partie de l'expérience. Et c'est correct. À quelque part, je veux me laisser aller à ce temps-là avec Dieu, avec mon Dieu, à être près de lui. On doit apprendre à prier. La prière s'apprend souvent par des modèles bibliques. Les psaumes ont été les guides pour la prière, autant pour les croyants de l'Ancien Testament que ceux du Nouveau Testament, et l'Église depuis des siècles. Qu'est-ce que les psaumes nous apprennent sur la prière? Je vais terminer avec ça. Elles nous apprennent qu'il y a quelque chose à ressentir dans la prière. Les psaumes donnent une place importante à nos émotions. Quand vous pensez aux psaumes puis aux prophètes, je le répète des fois, là, vous m'avez entendu dire ça, les psaumes, c'est une fenêtre sur l'expérience du croyant. Les prophètes, Ésaïe, tout ça, c'est une fenêtre sur la pensée puis les émotions de Dieu. Fait que vous voulez voir la relation entre Dieu et un croyant, vous lisez les prophètes puis vous lisez les psaumes. Puis là, vous entendez Dieu parler, puis vous entendez un croyant parler. Et donc, les psaumes accordent une place énorme à nos émotions, à nos épreuves, à nos lamentations, à nos louanges, à nos actions de grâce. Ces prières-là sont vécues. Ce n'est pas des prières froides, c'est des prières ressenties. Elles viennent à la fois de la raison et du cœur. Il y a quelque chose qui est vécu derrière ça. J'ai dans mon bureau, ici, la prière que j'ai faite à Dieu lorsque l'Église, à l'époque, quand j'ai été accepté comme pasteur, lorsque l'Église a voté. J'ai été tellement bouleversé, la journée même ou le lendemain, j'ai pris le temps d'écrire des actions de grâce à Dieu. Mais il y a plein d'émotions, là, vous liriez ça, c'est bourré d'émotions, de reconnaissance. J'ai renouvelé un engagement vers Dieu. J'ai dit, « Seigneur, tu m'appelles à être pasteur, c'est ton épouse, je vais en prendre soin. » Et pas à moi, elle ne m'appartiendra jamais, elle va toujours être à toi. Et donc, les psaumes nous apprennent à vivre ça avec nos tripes. Il y a quelque chose de profond. Jonathan Edwards va appeler ça les affections. Il parle des affections spirituelles, c'est-à-dire lorsque tu as tes désirs qui viennent comme s'exprimer, tu as tes émotions, tu as ce que tu voudrais, et tout ça, ça devient vraiment un désir. Il appelle ça les affections spirituelles. Je désire la présence de Dieu. Je sens la paix dans la présence de Dieu. Je désire que Dieu sauve mon peuple, que Dieu sauve ma famille. Je veux remercier Dieu pour ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Je m'en vais dans l'action de grâce. C'est des affections, c'est des désirs spirituels. Les psaumes nous enseignent que ça fait partie de la prière. La solitude, Jésus lui-même nous enseigne à prier avec le Notre Père. Il nous dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. » La prière s'apprend en bonne partie dans la solitude. Donc, il y a la prière de groupe. Je suis comme initié à la prière. Rendez-vous avec Jésus mercredi, prière le dimanche matin avec les dames, avec les hommes. Puis après ça, je vais apprendre à prier seul. Et ça, moi, ça a été la partie qui a été vraiment ardue. Mais c'est nécessaire de passer du temps seul pour prier. Moi, personnellement, la place où je connecte le plus facilement, c'est dans la nature. C'est incroyable. Je vous parle souvent de la chasse, mais ce que j'aime le plus de la chasse, c'est pas la viande que je rapporte à la maison. C'est rentrer dans le bois lorsqu'il fait noir, voir le soleil se lever, entendre les oiseaux commencer à chanter puis parler avec mon père. Ça, là, c'est le bonheur total. C'est le bonheur total. Je suis seul, là, je suis littéralement seul, là. Il n'y a aucun cellulaire qui se rend là. Il y a Dieu, moi. Si je meurs, il y a juste Dieu qui sait où je suis. Et c'est le bonheur total. Je suis seul avec Dieu dans la nature. Mais ça prend de la solitude pour apprendre à prier. Et donc là, c'est un défi énorme pour notre époque. Hein? On est, je pense aux jeunes générations, mais moi, je suis symptomatique totalement de ça. Complètement accro à cette bibitte-là. Fait que régulièrement, je dois... En plus, on s'en sert pour prier. Ta Bible est là-dessus souvent, tout ça. J'aime la Bible papier personnellement, mais j'écoute ma Bible en audio. Fait que souvent, je vais en mode avion. Parce qu'en plus, je vais prendre des notes. Mais, tu sais, moi, des notifications sur mon téléphone, il n'y en a à peu près pas, là. Je ne fonctionne pas en mode notification. Parce que j'ai vraiment besoin de solitude. Et simplement le fait de pouvoir fermer mon téléphone, comme je fais maintenant de plus en plus dans des rencontres, je rencontre des gens, j'éteins mon téléphone, puis je le dépose. Là, je viens de dire à la personne, tu es vraiment important pour moi. J'aimerais ça t'écouter, puis ça fait deux fois là, que tu me vois être distrait parce que quelque chose qui se passe à la maison, je ne sais pas. La solitude est super importante. Psaume 42 nous apprend la notion d'avoir soif de Dieu. Soif d'être en relation avec Dieu. Soif d'être près de lui. Soif de venir connecter avec lui. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est une belle image, mais ça parle de désirer. Puis enfin, il faut persévérer. Comme je vous ai dit, j'ai confessé longtemps à l'Église que je n'étais pas un homme de prière. Et je ne fais pas ça pour, me donner bonne conscience, là. Je fais ça pour dire, c'est un combat pour moi de faire ça. Pour d'autres, c'est plus naturel. Est-ce que vous avez des questions sur la prière? Vous auriez un partage que vous voulez nous faire sur ce que vous avez vécu avec la prière? Je suis ouvert. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a abordées où vous dites, c'est pas assez concret pour moi, ou vous avez quelque chose à nous partager sur votre expérience dans la prière? Personne? Bon, ben vous connaissez vos devoirs pour cette semaine. Vous priez. Puis si vous avez besoin d'apprendre à prier, vous venez prier avec ceux qui prient, mercredi, au rendez-vous avec Jésus. C'est bon? On va aller dans la prière ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence parmi nous et en nous. Quelle grâce, Jésus, de savoir que tu es ici avec moi, tu es en moi, Seigneur. Ton esprit m'habite. Tu me donnes l'assurance que tu es à l'écoute, tu es disponible. Tu prends plaisir à entendre les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur, Seigneur. Seigneur, tu m'aimes avec tout ce que j'ai qui n'est pas aimable en moi. Tous mes péchés, toutes mes bêtises, tu m'aimes malgré tout cela, Seigneur. Seigneur, tu œuvres en moi par ton esprit, même quand je n'en ai pas conscience. Tu vois mes craintes, mes joies, mes ambitions. Tu vois mes pensées tordues. Et tu œuvres pour former Christ en moi. Sois béni, Jésus. Seigneur, on veut te demander de nous transformer comme Église. Oui, on veut être une Église plus spirituelle. Une Église qui apprend à marcher par l'Esprit, à prier par l'Esprit. Une Église qui médite ta parole et qui vient dans la prière. Une Église qui ne se précipite pas à autre chose qu'à aller vers toi pour recevoir de toi les instructions, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque personne dans cette salle ce matin, tous ceux qui écouteront ce cours, fais de nous des hommes et des femmes de prière. J'ai encore tellement à apprendre, Seigneur. J'ai l'impression d'avoir juste ouvert la porte. Mais quelle grâce, Seigneur. J'ai juste à ouvrir la porte de la prière et déjà je commence à voir cette grâce d'être avec toi. Alors, je te prie pour ceux qui prennent secours avec scepticisme, qui se disent « Bon, c'est bon pour les flyer, là. Mais moi, je ne vois pas le jour où je vais vivre ça. » Seigneur, je te prie par ton esprit de leur donner un cœur de repentance qui crie à toi, qui dit « Père, apprends-moi à prier. Je sais que tu veux m'apprendre à prier. Je sais que c'est une prière qui te plaît, Seigneur. » Je te prie, Père, pour ceux qui ont appris la prière dans la souffrance et qui souffrent. Viens leur donner d'expérimenter dans la prière une paix telle, Seigneur, que la souffrance s'atténue, tombe en arrière-plan, Seigneur, et que ce soit toi qui sois à l'avant-plan. Les bénédictions de cette communion avec toi. Et on te prie enfin, Seigneur, de bénir notre assemblée aujourd'hui, alors qu'on se rassemble, que l'Église s'en vient, qu'il va y avoir des gens qui ne te connaissent pas, des gens qui te connaissent, alors qu'on va prendre une réunion de membres tout à l'heure et qu'on va manger ensemble. Viens bénir cette Église sous ton regard, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, vous avez les notes derrière. Vous avez une feuille pour inscrire vos noms, pour votre présence. Et puis, on poursuit la semaine prochaine. Et il va y avoir la vidéo du cours qui va être disponible sous peu sur PCO. Merci.